travaille, on a accompagné 75 structures de l'ESS de toute nature, coopératives, entreprises à mission, entreprises adaptées. On les accompagne sur 2 ans. Sur 2 ans, alors quand on dit qu'on fait de l'accélération quand on est dans l'impact, ça veut dire qu'on veut accélérer l'impact. Parce que pour accélérer l'impact, il faut faire la croissance. Ça, c'est un peu l'image de l'avion, la métaphore de l'avion. En cas de dépressurisation, mettez le masque sur votre tête avant d'aider quelqu'un d'autre. Parce que sinon, on meurt. Et en impact, c'est un peu la même chose. C'est pour maximiser l'impact, il faut s'assurer que l'organisation est pérenne et qu'elle puisse être équipée pour grandir. Donc sur 2 ans, ce qu'on fait, c'est qu'on a en général 3 phases. Une phase un peu d'audit, on fait connaissance, une phase de structuration et une phase de transformation. Et pendant ce parcours-là, donc ça fait 5 ans qu'on fait ça, avec plein d'entreprises extrêmement différentes, dans des secteurs très différents, avec des missions très différentes, avec des engagements très différents des différents fondateurs, on fait ce qu'on appelle, nous, tourner la roue de l'impact. Alors, on a appris ça en faisant, comme dans beaucoup de programmes d'entrepreneuriat en général. Ce qu'on avait envie de faire aujourd'hui, c'était de vous parler de cette roue de l'impact. Plus elle tourne, plus elle crée d'impact. Et de partager avec vous nos expériences et peut-être de pouvoir échanger sur ces questions-là, voir comment dans votre environnement cela peut se traduire. Alors, avant de faire ça, je vais vous présenter mes acolytes, eux-mêmes, qui sont tous les deux parties prenantes dans notre accélérateur, puisque Sarah, elle est dans une des structures qu'on accompagne, c'est une accélérée, et donc elle est en milieu de parcours, il nous reste 1 an d'accélération, et puis Nicolas, il a une double casquette, comme beaucoup de gens chez nous. Il est fondateur d'une entreprise, donc il va vous parler, et puis il est aussi ce qu'on appelle un mentor, parce que le programme d'accélération, il a un peu 4 pieds, il a un pied académique, c'est-à-dire on fait de la formation, il y a des choses qu'il faut savoir quand on veut faire de l'accélération, et il faut savoir les mettre en œuvre dans sa propre organisation, donc on fait des cours, on est HEC, donc il va faire des cours, on fait du mentorat, c'est-à-dire que les dirigeants sont, et leurs équipes sont accompagnés par des mentors extrêmement expérimentés en business et en business à impact. On met à disposition des experts, parfois gratuitement, parfois avec une participation des accélérés, quand il y a des sujets particuliers sur lesquels il faut qu'ils travaillent, de la gouvernance au commercial, à la mesure d'impact. Et puis, on a aussi des parcours qui sont destinés à faire en sorte qu'on agisse en pack, en meute. D'accord ? Parce que notre ambition aussi, c'est de plus on fait travailler ensemble dans un territoire qui est de France, des entreprises qui ont des missions à impact, plus on va pouvoir aussi potentiellement peser sur des décisions plus larges. Donc, on veut aussi construire un collectif. C'est important pour les participants.
Vous m'entendez, non ?
C'est important pour les participants et c'est aussi important dans notre collaboration avec les acteurs dans l'écosystème pour faire avancer les choses. Et donc, nos mentors, ils ont l'expérience de l'entrepreneuriat et ils ont l'expérience de l'accompagnement. Sarah, si tu peux te présenter.
Je ne sais pas si j'utilise le micro ou à l'oral, ça ira aussi. Comme ça, ça va aussi ? J'aime bien l'exprimer avec les mains, alors si j'ai le micro, ça va être un peu compliqué. Donc, je m'appelle Sarah Westerfeld, je suis co-directrice générale de Belastor, une société coopérative d'intérêt collectif. Donc on est un bureau d'études d'ingénieurs et d'architectes et on fait du réemploi de matériaux à l'échelle du bâtiment. Et donc on a intégré l'accélérateur il y a maintenant 1 an, tout pile. Pourquoi ? Parce qu'on cherchait quand même toujours à se développer. On est une structure qui a quand même maintenant 15 ans d'existence. Dans les faits, on est une structure qui fonctionne plutôt bien, tout se passe bien, etc. Mais on devient vite pantoufleur au bout d'un moment et on a besoin aussi de se challenger nos équipes également sur le développement parce que mine de rien, nos salariés sont sociétaires de Belastor, donc impliqués également dans la stratégie de la structure. Et donc du coup, comment embarquer tout ce beau monde-là avec nous, avec le discours qui va avec et toutes ces choses-là, parce que mine de rien, une restructuration, qu'elle soit interne, c'est une chose, mais qui génèrent aussi donc, parfois des conflits ou des incompréhensions liées à la stratégie qu'on souhaite mener. Voilà, il faut adapter son discours et cultiver un peu cette culture d'entreprise. Un doublon, mais voilà.
Alors, je vais aussi poser le micro.
Bonjour à tous, je suis Nicolas Soublet et je suis business mentor à l'accélérateur ESS d'HEC Paris et Région Île-de-France. J'ai commencé ma carrière dans l'industrie automobile. Pendant 15 ans, j'ai occupé différentes positions en stratégie et en opération industrielle. Et puis au bout de ces 15 ans, j'avais besoin de mettre un peu plus de sens à ce que je faisais. J'ai fait un executive MBA avec HEC. Et cette même année, j'ai lancé ma structure avec ma partenaire, qui est une structure qui s'appelle Ma Bonne Étoile, c'est une structure à impact, et deux marques, Squeeze et Feel Good, pour la conception et la commercialisation de contenants réutilisables. Ça fait maintenant presque 10 ans que je me mets dans la catégorie d'entrepreneur à impact. Ça fait quelques années maintenant que je travaille avec l'accélérateur ESS pour démultiplier l'impact et partager l'expérience que j'ai pu acquérir en tant qu'entrepreneur, la partager avec des dirigeants et en particulier les dirigeants de l'économie sociale et solidaire. Étant basé dans les Yvelines, pour moi ça faisait complètement sens lorsque l'accélérateur m'a appelé de répondre positivement aussi pour cette raison. Voilà.
Merci à tous les deux. Je voudrais vous partager ce qui est le socle de notre la façon dont on travaille. Et ça m'intéresse évidemment d'avoir vos feedbacks constructifs. On travaille avec un rôle d'impact. Quand on travaille avec des entreprises qui ont pour mission de faire de l'impact, quel que soit l'impact qu'elles veulent avoir. Par exemple, on a beaucoup de structures qui font travailler des personnes où on a des structures d'insertion, où on a des structures qui sont dans la collecte de tri de déchets, etc. Quel que soit l'impact que l'entreprise veut avoir, on a constaté que si on travaille sur ces cinq dimensions, alors on peut faire passer les structures à l'échelle en conservant l'impact et en augmentant l'impact. Parce que le grand risque dans la croissance des structures de l'ESS, c'est qu'il y a trois formes de croissance. Hein. Il y a le scale-up, je fais la même chose en plus. Le scale out, c'est je prends l'ADN de ce que je fais et je le fais ailleurs. Ou le scale deep, je suis sur les mêmes bénéficiaires, les mêmes clients et je fais un peu plus de valeur. Mais on ne peut pas faire les trois en même temps et il faut choisir son plan parce qu'on n'a pas les ressources, l'énergie, les moyens pour le faire. Donc cette roue-là, voilà comment elle fonctionne chez nous et Sarah et Nicolas vont témoigner aussi de ce que ça veut dire concrètement. Ça commence par l'humain. L'impact, c'est toujours fait par quelqu'un. C'est toujours fait par un individu ou un collectif. Donc si on ne commence pas par la personne et par le collectif, il n'y a aucune chance qu'on arrive à faire de la croissance. On dit nous qu'on a des dirigeants qui ont la tête bien faite et le cœur engagé. Parfois ils ont le cœur plus engagé, parfois ils ont la tête bien faite et les deux. Il faut que ce soit équilibré pour que ça fonctionne. Il faut comprendre pourquoi on fait ce qu'on fait. Malheureusement, on n'explique pas aux gens que leur cas n'intéresse qu'eux-mêmes. Si on expliquait aux gens que leur cas n'intéresse qu'eux-mêmes, les gens passeraient un peu plus de temps à comprendre ce qu'ils sont et à comprendre comment les autres fonctionnent pour pouvoir inspirer confiance, ce qui est la base de l'entrepreneuriat quel qu'il soit. La première chose qui inspire confiance, c'est la personne avant le projet. Et si je n'ai pas confiance en vous, je ne regarderai pas votre projet de toute façon. Mais pour inspirer confiance, il faut être aligné. Et quand on veut inspirer confiance sur des sujets qui nécessitent des transformations importantes comme celles qu'on vit d'un point de vue environnemental et social, il faut être quand même assez solide. Donc on travaille beaucoup sur les personnes, on travaille beaucoup sur leur propre raison d'être, leur propre moteur, et on les accompagne aussi dans la compréhension de comment fonctionne la bestiole humaine pour inspirer aux gens le désir de passer à l'action avec eux. C'est fondamental. C'est quelque chose qu'on n'apprend pas beaucoup, on n'apprend pas souvent, donc on passe beaucoup de temps là-dessus, parce que l'humain, c'est fondamental. La deuxième chose, c'est la connaissance. La connaissance, pour moi, c'est différent du savoir. Le savoir, il est librement disponible. Vous pouvez trouver tout. Comment on fait un business plan sustainable, comment on fait... Tout ça, ça existe. Malheureusement, le savoir n'est rien sans la connaissance. La connaissance, c'est la mise en œuvre du savoir et son expérimentation. Et donc, on travaille beaucoup à dire, on peut dire qu'on fait un business model durable comme ça, mais est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut comprendre ? Donc, on travaille beaucoup sur l'expérimentation et l'expérimentation collective, parce qu'évidemment, l'impact, c'est systémique, et donc, on ne peut pas expérimenter tout seul dans son coin. Donc, il y a pour nous cette différence entre la connaissance et le savoir qui est fondamentale. La troisième dimension, c'est le territoire. L'impact se fait toujours quelque part. Et on remet beaucoup en cause, nous, ce qu'on a beaucoup appris à nos élèves, dans les années 80, c'est la best practice, la bonne pratique. Si quelque chose marche quelque part, alors on va le faire ailleurs. En réalité, un impact, ça ne marche pas du tout. Parce que la notion de territoire, c'est une notion de millefeuille. Alors, on s'arrête souvent à la géographie, au social et à l'économie, mais c'est aussi une histoire, un territoire, qui est très important. Je me souviens d'avoir fait un programme avec un donateur dans les Pouilles, en Italie. J'avais 3 jours pour préparer le programme et j'arrive, je pensais passer une heure pour le remercier, expliquer ce qu'on allait faire. Il m'a gardé 3 jours parce qu'il m'a dit, je vais te montrer ce que c'est que les Pouilles, parce que si tu ne comprends pas ce territoire, tu ne pourras pas aider les gens. Et il m'a dit, ces gens-là, ils ont été envahis des milliers de fois. Donc, ils ont appris à baisser la tête. Et il faut qu'ils remontent la tête. Et effectivement, dans l'impact, il y a une nécessité d'aller profondément dans les dynamiques et les compréhensions d'un territoire, y compris dans les mouvements de population qui sont sur ce territoire, si on veut ancrer les gens quelque part et leur permettre d'exprimer leurs talents et de faire l'impact. Ce qui complique la notion de territoire, c'est qu'il y a le territoire physique, mais il y a le territoire digital maintenant. Et il y a le territoire spatial. Moi, je travaille beaucoup dans un programme international sur les start-up qui créent des choses dans l'espace. Beaucoup d'entre elles créent des choses qui vont avoir un impact direct sur la planète. Parce qu'évidemment, ce qui se passe dans l'espace est un reflet de ce qui se passe ici. Parfois, c'est un impact positif. Parfois, c'est un impact pas très positif. Donc, sur la notion de territoire, il ne faut pas se tromper. Il y a le territoire physique, mais il y a aussi d'autres territoires dans lesquels il se passe quelque chose qui peuvent amplifier ou limiter nos actions ici. D'où la nécessité de travailler en collectif, ce qui veut dire apprendre à collaborer, ce que peu d'entre nous savent faire, parce qu'on sait assez bien travailler en groupe, mais collaborer, c'est plus difficile. La quatrième dimension, c'est l'innovation. Innovation tech, évidemment, ça peut aider de temps en temps, mais innovation frugale et sociale aussi. Dans le problème de l'innovation, qu'elle soit tech frugale ou sociale, il y a une nécessité, quand on veut créer de l'impact, avoir une approche globale. Par exemple, si on regarde les catastrophes climatiques, en cas de catastrophe climatique, les femmes sont en général en charge d'assurer la sécurité et l'alimentation du foyer pendant la crise climatique. Pendant ce temps-là, elles ne travaillent pas, elles se forment pas. Donc, sur les 1 milliard de gens qui vont souffrir des transformations climatiques, 70% sont des femmes. Donc, quand on crée quelque chose pour traiter ces questions-là, il faut prendre en compte l'environnement dans lequel l'innovation va s'exprimer. Donc, c'est vrai au niveau sur des grosses innovations, mais c'est vrai aussi quand on fait des innovations incrémentales dans son organisation. Et le dernier point, il est fondamental et il est compliqué, c'est l'influence. C'est-à-dire que quand on veut faire de l'impact, il faut souvent être capable d'inspirer aux gens le désir de changer de comportement pour avoir un comportement, un impact positif, quoi que ce soit. On va la définir ce que c'est. Mais en tout cas, il faut arriver à engager les gens. Et ça, il y a des gens qui ont des intérêts un peu moins positif en fait, qui savent très bien le faire, mais on peut aussi très bien le faire quand on fait quelque chose de bien. Ça demande là encore un travail collectif. Donc, pour nous, travailler sur la croissance de l'impact, c'est toujours ce qu'on se demande toujours, cette action-là, à quoi elle contribue dans cette roue-là. Ou à l'inverse, si je veux faire ça, et je te vois sourire, si je veux faire ça, qu'est-ce qu'il faut que je fasse sur l'humain, sur la connaissance, qu'est-ce qui manque comme connaissance, sur le territoire, sur l'innovation et sur
celle qu'on a trouvée qui est la plus facile à adopter et la plus facile à mettre en œuvre quand on passe à l'action pour accélérer des structures. Finalement, on passe beaucoup de temps ensemble, on passe 2 ans, mais 2 ans, c'est assez peu de temps aussi pour les transformations qui sont nécessaires pour pérenniser et développer les structures. Donc, je voulais, partager ça avec vous, et puis peut-être Sarah, qui est en plein dedans, si tu peux témoigner de ce que ça veut dire concrètement pour vous.
Peut-être ces quatre-là. Oui, alors enfin, les 4 5, puisque du coup l'humain est au centre, donc c'est ce que j'ai un peu quitté au début de notre présentation. Moi, je suis arrivée chez Bellastock pas au début, je suis arrivée en cours de route il y a presque 5 ans maintenant, au moment de la transformation de l'association à société coopérative. Le passage d'assaut à société, ça implique quand même un choix qui est assez évident, c'est notamment ce gros mot, la rentabilité. Moi, je suis juriste d'affaires de formation, avec une très très grosse appétence finance. Nous arrivons dans ce club d'architectes, d'ingénieurs, qui avait quand même largement innové sur le réemploi de matériaux à l'échelle du bâtiment, qui avait convaincu des maîtrises d'ouvrage et des maîtrises d'œuvre d'enfer, etc. Et donc moi, j'arrivais pour étudier un peu tout ça, voir ce qui se passait et permettre à Bellastock de continuer à exister et de faire des projets qui sont enrichissants, qui sont durables et qui sont engageants pour les salariés, mais également pour tous nos clients. Donc comment faire ? Comment faire quand on a un discours très juridique, très financier pour embarquer tout le monde et expliquer comment ça va se passer, cette restructuration où là, elle va faire un audit de mes projets, je suis déficitaire, qu'est-ce qui va se passer? Donc du coup, ça a été ça, d'adapter un peu tout ça. C'est ce que j'ai fait il y a 5 ans. Aujourd'hui, je suis la direction générale de Bellastock avec un des fondateurs, Antoine, qui est juste là, qui me regarde. Et donc du coup, c'était embarquer l'humain. Donc adapter mon discours, ça a été aussi les questions d'influence, c'était aussi les rassurer. Donc c'est-à-dire que je comprends vos projets, je comprends ce qu'on fait, mais on peut faire aussi de manière rentable, c'est-à-dire faire des projets, on est bénéficiaire, on va augmenter notre toujours, ça va bien se passer, on a fait une étude de la concurrence, du marché, etc. On a mesuré les risques, l'intérêt aussi, parce qu'en fait, ils ont plein d'idées, toujours les architectes et les ingénieurs, ils ont plein d'idées, on va faire ça, etc. Je dis ok, on va faire ça, c'est intéressant pour toi, mais est-ce que c'est intéressant pour le client? Ça aussi, c'est des questions qui ne sont pas toujours évidentes pour eux. Donc, c'est aussi pas avoir l'image de grande faucheuse quand on leur dit non. Pourquoi je leur dis non? Et donc, du coup, on a amené tout ça, et au bout de 5 ans, la structure se porte super bien, tout va bien, on fait beaucoup de projets d'intérêt collectif, on fait des projets qui sont financés sur fonds propres, toujours. C'est-à-dire que les bénéfices qui sont générés par les projets de conseil d'ingénierie permettent d'engager des fonds propres dans des projets d'intérêt collectif, tels que chez Bellastock, on fait notamment un très gros festival d'architecture depuis 15 ans. On embarque 500 étudiants et jeunes professionnels pour faire une ville éphémère avec des matériaux bio, géosourcés et réemployés. Donc pour financer toujours ces projets, il faut générer des bénéfices et tout ça. Donc ça, on le fait. Donc ce que je vous ai dit au tout début, c'est ce côté un peu confort, donc tout est bien, l'équipe est bien, etc. On continue à se développer, on est 20 salariés actuellement. Sauf que, encore une fois, ce sont des ingénus, ils ont plein d'idées. Comment faire pour continuer sur cette lancée, me challenger Antoine qui est la co-direction avec moi, et réussir à développer quelque chose qui est profitable et pour Bellastock, mais également pour notre engagement qui est quand même très écologique, c'est quand même diminuer le carbone à l'échelle du bâti, et comment faire. Et donc du coup, l'accélérateur, c'est surtout ça, c'est de nous accompagner, mais en même temps nous poser aussi des questions, parce qu'on a l'impression de tout savoir en tant que directeur général, de se dire, ouais, non, mais ça c'est pas pour nous, ça c'est pour nous, ok, les risques, etc. Et ça, l'accélérateur nous aide beaucoup à ça, c'est-à-dire à se questionner énormément sur... comme on le ferait pour un salarié, quand on a un coordinateur qui vient nous voir, qui nous dit voilà, j'ai une super idée, et bien c'est la même chose avec nous, de ce que fait HEC, notre mentor, de dire bon, ok, Sarah, Antoine, vous avez une super idée, mais on y va comment jusqu'à son endroit.
Je voudrais juste rebondir là-dessus, parce qu'il y a quelque chose sur le. Quand on parle d'impact, il y a un éléphant dans la pièce qui est l'argent. D'accord. Et on ne parle pas beaucoup d'argent. En réalité, c'est la vraie question. Et donc, on travaille, il y a plusieurs dimensions à cette question de l'argent. Il y a la dimension, on va dire, sociétale, sociale. Qu'est-ce que c'est que notre rapport des uns et des autres avec l'argent, avec ceux qui en ont, avec ceux qui l'investissent, avec ceux qui disent qu'ils le dépensent bien, ceux qui disent
femmes. Donc il y a une question autour de l'argent qui est le vrai pouvoir qu'on a pour prendre des décisions sur ce qui est bien et mal. Mais il y a un autre problème sur la relation à l'argent dans cet environnement d'impact, c'est celle des dirigeants. Parce qu'il y a quelque part dans notre psyché une idée que si on veut faire le bien, on ne peut pas gagner de l'argent en même temps. Et donc on travaille beaucoup là-dessus, parce que parfois c'est conscientisé, et on va le dire, hein, nous on a des entreprises qui rentrent un accélérateur et qui vont faire des mots, capitaliste, HEC, c'est pas du tout notre monde. D'accord ? Donc on travaille pour, et puis il y a ceux qui aimeraient bien pouvoir dire, bah, moi j'ai envie qu'elle gagne de l'argent mon entreprise, parce que j'ai envie de pouvoir avoir encore plus d'impact et je constate que pour le faire, il faut avoir de l'argent. Donc ce travail sur la relation à l'argent, qui est teinté de plein d'éléments culturels, religieux, l'argent c'est mal, les gens qui gagnent de l'argent disent que c'est louche, l'argent il ne faut pas en parler, l'argent il faut en parler. Il y a une multitude d'attitudes par rapport à l'argent qui sont un vrai handicap, parce que l'argent n'est qu'une énergie qui circule dans les décisions et dans les ambitions que les dirigeants. Donc, ramener cette question de l'argent au niveau des personnes, et c'est quoi ton rapport à l'argent? Est-ce que tu as l'impression que tu gagnes assez pour tout ce que tu fais? Parce qu'il y a ça aussi, personnellement. Il y a des dirigeants qui sont hyper engagés, qui ne gagnent rien. Et ce n'est pas juste, quelque part. D'accord? Donc, il y a plein de questions à avoir sur la relation à l'argent et dans les structures, de ramener ça aussi. Ok, tu as une super idée, ça va coûter combien? Et en quoi ça contribue à l'objectif qu'on s'est collectivement donné et ton objectif individuel à toi. Et ces discussions, elles sont longues. Elles sont longues, elles sont douloureuses. Parce qu'il faut se dire des choses dont on ne discute pas forcément facilement. Du type, et je passerai la parole à Nicolas, du type, quand on est cofondateur d'une entreprise avec impact, il y a des discussions qu'il faut avoir. C'est quoi la réussite pour toi? Si on n'a pas ces discussions entre fondateurs, on risque d'avoir des non-dits tellement importants qu'on va développer deux structures totalement différentes, parce que ça ne sera pas les mêmes entreprises pour atteindre deux objectifs différents. Donc quand on parle de l'humain, c'est de ça qu'on parle aussi. C'est de qu'est-ce que ça veut dire de gagner de l'argent ou pas, de qu'est-ce que ça, comment on parle de ça avec ses salariés, etc. Nicolas,
En tant que mentor dans cet accélérateur, effectivement, on voit bien que l'humain est toujours au centre de cette boucle d'impact. Et c'est toujours par là qu'on commence à travailler avec les dirigeants qu'on accompagne. C'est-à-dire qu'on va travailler sur l'ensemble des leviers de la boucle d'impact, mais on commence toujours par l'humain et on est conscient qu'on embarque dans une aventure qui, en général, a commencé il y a un petit bout de temps. Mais on a aussi, je crois, des startups qui ont lancé il n'y a pas très longtemps. Mais on s'embarque dans une aventure humaine. Et cette aventure humaine, elle est passionnante, elle dure 2 ans. Et pendant 2 ans, on va accompagner un dirigeant, parfois des dirigeants, une structure, une équipe, une organisation. Et on sait qu'on va toucher des sujets extrêmement sensibles et qu'il est important de bien comprendre tout le contexte dès le départ, le contexte de l'entreprise, le contexte personnel du dirigeant, les stratégies mises en place jusqu'à présent, l'opérationnel, et bien évidemment, la raison d'être de l'organisation. Sur quoi cette organisation est là et qu'est-ce qu'elle vient faire dans l'accélérateur de l'économie sociale et solidaire. Donc l'humain, c'est vraiment le point de départ en tant qu'entrepreneur dans notre seconde vie, nous, mentors, on est crédibles vis-à-vis des dirigeants qu'on accompagne. On est crédibles parce qu'on sait ce que c'est que l'entrepreneuriat. On sait que ce n'est pas une ligne droite. On sait qu'il va y avoir des moments difficiles. Et pendant ces 2 ans-là, on sera aux côtés des dirigeants pour les aider à avancer et à être parfaitement alignés, comme le disait tout à l'heure Nathalie. Et ça. Donc, point de départ, l'humain. La connaissance, il y a de nombreuses interventions pendant ces 2 ans. bien sur des formations que des accompagnements d'experts choisis spécifiquement pour des thématiques propres à l'entreprise, que des partages de bonnes pratiques, et ça on le fait beaucoup, partage de bonnes pratiques sur l'ensemble des leviers d'action sur les parties prenantes. En général, un fondateur ou un dirigeant d'une structure à impact, il a envie d'accroître son impact et il cherche les moyens de le faire. Et là aussi, on a une certaine expérience. Et déjà, lui faire prendre conscience de qui sont ses parties prenantes, qui sont différentes d'une entreprise à une autre, et lui faire comprendre qu'est-ce qui se fait ailleurs et comment il pourrait mettre en place ses plans d'action dans son entreprise de façon vraiment pratico-pratique. Je pense que ça, c'est vraiment un des rôles clés de l'accélérateur. Et c'est en général ce que les accélérateurs nous disent, c'est très content aussi de pouvoir transformer directement avec l'exemple pratique.
C'est vrai. Non, mais c'est pour juste rebondir là-dessus, c'est que, en tant que dirigeant d'entreprise, la théorie, on en met des moments, c'est bien beau, si on n'arrive pas à transformer plus ou moins l'essai. Et l'expérience, également. Ça joue beaucoup parce que quand on fait du conseil auprès d'entreprise, si en face de nous on a quelqu'un qui n'a jamais dirigé une boîte ou managé des personnes, il y a un peu un déficit de confiance. Genre, ok, tu vois comme ça s'appelle la théorie, mais en fait, est-ce que tu l'as vraiment expérimenté toi-même? Voilà, c'était juste pour rebondir là-dessus.
Je crois qu'il y a, et que ce soit HEC ou il y a plein d'autres excellents accélérateurs, il y a de toute façon. Je ne crois pas du tout à la concurrence dans ce domaine-là. On n'a pas encore craqué la transition écologique et sociale. Donc, plus il y a d'acteurs qui s'engagent, mieux c'est, de mon point de vue. Mais l'idée, c'est une accélération où la croissance dans ce domaine-là, ça nécessite réellement la création d'un espace sacré dans lequel on peut exprimer aussi beaucoup de choses, poser beaucoup de questions. Et la création de cet espace, elle se crée par la confiance. Et comment on crée de la confiance avec des gens qui sont le nez dans le guidon, qui ne font que résoudre des problèmes, qui s'en prennent plein la figure en général en faisant ça. On est d'abord crédible sur le côté business, parce que c'est ça qu'ils viennent chercher. Et ensuite, on doit inspirer confiance sur notre capacité à les laisser déposer tout ce qui les empêche. Et si on pense que la croissance, c'est que du business, on se trompe. Parce que le business, de toute façon, ça n'est que de l'humain. Et c'est créer des connexions significatives avec des gens qui vont bénéficier à tout le monde. Donc, ça commence par là. Donc, la croissance, on doit trouver un endroit sécurisé dans lequel on peut déposer tout ce qu'on a déposé, où on va nous poser des questions, où les gens qui nous posent des questions n'ont pas d'autre intérêt que notre réussite. Donc, ils ne sont pas investisseurs, ils ne sont pas ils n'ont rien à gagner, ils n'ont pas d'ego là-dedans, ils ont juste votre réussite à l'esprit. Et l'idée de mettre en action aujourd'hui, si on fait, mais même dans notre école, on ne peut pas faire un cours en n'ayant qu'un prof. Vraiment pas omniscient. Et on sait que si on fait des cours d'entrepreneuriat, il faut des entrepreneurs parce qu'ils vont passer les connaissances molles. Tout ce qu'ils ont acquis avec l'expérience et que nous, on ne pourra jamais transmettre. Et puis des profs qui ont vu suffisamment d'entrepreneurs pour retirer la substantifique moelle de ce qu'ils ont fait et la rediffuser pour que ce soit applicable pour tout le monde. Et la troisième chose, c'est que, et c'est pour ça qu'on a fait un accélérateur, c'est pour ça que la région s'est engagée là-dedans, c'est parce qu'on sait que l'apprentissage par les pairs est fondamental. Parce que là aussi, je reconnais en toi quelqu'un qui a vécu la même chose que moi et qui a peut-être déjà trouvé une solution qui fonctionne. Donc ces trois dimensions-là, pour nous, elles sont fondamentales et elles s'expriment dans cette roue. Je vous propose, à moins que vous n'ayez quelque chose à ajouter, d'échanger peut-être et de vous laisser la parole. Oui.
J'avais deux questions. La première, donc vous dites que, en gros, si j'ai bien compris, donc les dirigeants, en fait, s'inspirent de ces fameux mentors qui leur transmettent leur expérience et leur donnent des conseils, etc. Est-ce que vous avez un système où vous mettez en relation aussi tous ces dirigeants qui font partie de ce
processus? Alors, le mentor ne délivre rien. Le mentor ne fait que poser des questions. Parce que les boss, c'est eux. Donc, c'est eux qui vont décider ce qu'ils vont faire. En revanche, les mentors, ils ont vu des entrepreneurs, ils en ont vu des centaines, si ce n'est des milliers pour certains d'entre eux. Donc, les situations, les tests, ils les ont tous vus. Donc, ils sont capables de poser des questions un peu disruptives qui vont faire réfléchir les dirigeants pour ensuite qu'ils mettent la main à la pâte et qu'ils se mettent en œuvre. Après, on peut les aider avec des experts dans la mise en œuvre, etc. Mais le rôle du mentor, c'est un rôle de questionnement. Et ensuite, ils sont tout le temps ensemble. L'intérêt, c'est ça. C'est que sur 2 ans, je pense qu'ils ont même marre de nous, d'un moment, parce qu'on est toujours sur leur dos et on les réunit toujours. Parce qu'effectivement, on cherche cet effet meute. Pourquoi ? Parce que d'une promotion à l'autre, ça crée du business pour les uns et les autres, qu'on travaille en collaboration avec la région aussi, et que donc on va créer des opportunités, la région, les entrepreneurs et nous, sur des enjeux particuliers, les Jeux Olympiques, des choses comme ça. Donc oui, pour nous, ce pilier collectif, il est fondamental.
Et concrètement, du coup, en un an, qu'est-ce que vous avez mis en place grâce à ça?
Énormément de choses. Vous m'avez bien travaillé. ça, c'est bien vrai, en tout cas, pour les deux aspects, je rebondis juste là-dessus. Dans la promo, on est une vingtaine de structures. C'est une richesse incroyable dans les retours d'expérience qu'on peut avoir des uns et des autres. En tant que dirigeant, on est quand même vite isolé dans une structure. Même si ça se passe très bien, les salariés sont contents, etc., on reste quand même les deux têtes ou la tête, et donc du coup, on s'isole très vite. Donc avoir les retours d'expérience de plein d'autres dirigeants, ça fait beaucoup de bien, déjà, ça permet de... On n'arrive pas qu'à moi, tout va bien et tout. Et le mentor, il est vraiment là pour, comme je disais tout à l'heure, poser vraiment beaucoup de questions, nous questionner normalement, ok, t'es sûr, ok, vas-y, présente-moi un business model, et après on le revoit, et on le revoit, et on le revoit. Et nous, ce qu'on a fait chez Belastock en un an, si je vais faire toute la liste, ça va être très très long, on a surtout restructuré encore en interne, parce qu'on est un collectif, donc deux salariés qui, voilà, c'est toujours un peu le côté, les mauvais retours des associations, c'est toujours un peu des mini-auto-entrepreneurs, donc il faut toujours un peu pallier à ça, c'est-à-dire que peut-être pas tout ce que vous voulez. On est un collectif, donc on recentre sur le collectif, on uniformise tout ça. On a restructuré de nouveau en interne des choses qui n'allaient pas pour bien accueillir notre modèle économique et être sûr qu'il fonctionne bien et qu'on reste sur notre lancée. Et après, en termes d'innovation, on est en train de lancer, une deuxième structure avec une autre, on développe notre nouvelle expertise au sein de Belastock qui est construite, donc la maîtrise d'œuvre à proprement parler. On n'est plus simplement une entreprise conseil en ingénierie et on n'accompagne plus seulement les architectes, on va construire nous-mêmes. Et donc voilà, donc ça c'est beaucoup de développement d'outils en interne, il faut tester notre méthode, donc on la teste comment? On la teste des projets à échelle plutôt inférieure, donc de scénographie, de plein de chantiers de ce type-là qu'on a continué à développer. Donc ça c'est beaucoup de prospection, c'est rencontrer les clients, donc beaucoup de retours aux clients. On a passé des mois au téléphone avec nos clients, qu'est-ce que vous attendez, etc. Là, c'est toute une méthode qu'on nous apprend à chausser. On ne dirige pas le client sur la réponse qu'on attend, mais on attend que la réponse elle vienne d'elle-même sans trop faire. Donc, ça, c'est tout un savoir-faire.
On appelle ça lâcher le boulot.
C'est ça. Pour être sûr qu'on ne fait pas fausse route, hein. Encore une fois, c'est intérêt, risque, on mesure les choses. Et donc, voilà, ça prend beaucoup de temps. Ça, c'est en un an. Et c'est aussi lever la tête de nos problèmes, parce que ça, c'est vraiment le cas. Hein, quand on est. Pour une entreprise, on passe notre temps à régler des problèmes et on se dit, là, je ne vais jamais avoir le temps de faire autre chose, de développer, de restructurer, j'ai la tête sous l'eau, etc. On nous oblige, hein, chez HEC, tu poses des crayons maintenant, tu poses tes mails, pendant une semaine, on va faire que ça. Et ça, ça crée de l'espace pour nous aussi hein, et de permettre de savoir pourquoi on fait aussi ce métier. Parce que c'est vrai que dans les entreprises dans l'impact, tout le monde ne se paye pas non plus très très bien. Il y a qui sont des structures qui sont toutes jeunes, qui démarrent, donc beaucoup. C'est pas le cas pour Belastock, mais je donne vraiment l'exemple de retour d'expérience que j'ai eu d'autres personnes de la promo. Donc ça aide sur tous ces aspects.
Merci. Je me demandais quel profil d'entreprise vous accompagne, parce que je vois que vous avez 10 ans, mais enfin, l'entreprise existe depuis 10 ans. Il y a des startups. Enfin,
alors, on prend pas d'entreprises qui sont en création. On a des entreprises qui qui ont, enfin, des organisations qui ont au moins 500 000 euros de chiffre d'affaires et qui ont une dizaine d'employés ou de bénéficiaires, au moins. Et après, ça peut être n'importe quelle activité, n'importe quel format. Il y a la liste, je pense, sur le site de toutes les associations, enfin, toutes les organisations qu'on accompagne. Mais on ne prend pas d'organisation en création. Notre objectif, l'objectif global de l'accélérateur et de la région Île-de-France, c'est aussi de créer de l'emploi sur le territoire, de favoriser la création de structures ESS, de favoriser le développement des relations entre les structures ESS et les structures dites normales. Et aussi, c'est plus mon ambition peut-être, mais c'est aussi de moderniser le concept de l'économie sociale et solidaire. On pense que si on pose toujours les mêmes questions, on a toujours les mêmes réponses, et que donc il faut changer un peu la question. Et on a aussi l'ambition de faire travailler sur les territoires différentes parties prenantes pour peut-être envisager ces questions-là sous un autre jour. Donc ça, c'est un travail en plus dans lequel évidemment nos accélérés sont impliqués, mais pas que la région.
Du coup, on applique, on candidate, c'est un processus de choix.
Alors, vous avez jusqu'à demain, voire après-demain, je crois, pour la promotion.
Vendredi.
Jusqu'à vendredi pour la promotion. Mais vous allez voir mes collègues, ils vous expliquent le process de sélection. Après, il y a un élément qui est important. On pourrait aussi dire que parfois, un résultat positif de l'accélérateur, ça peut être de dire. On ne pense pas que tu es la bonne personne pour la phase d'après. Et parfois, c'est un soulagement pour les personnes qui ont d'une certaine façon besoin qu'on leur donne l'autorisation de lâcher le boulot parce qu'elles ont peut-être envie de faire autre chose ou parce qu'elles sont plus efficaces pour créer. Donc l'efficacité de l'accélérateur et de toute autre structure de ce type-là, c'est aussi de dire des choses compliquées aux gens. Et c'est aussi de leur permettre de dire à leurs employés, à leurs cofondateurs, c'est pas moi qui ai envie de demander ça, mais HEC m'a dit qu'il fallait le faire. Donc ça permet d'entamer des discussions qui potentiellement peuvent être un peu difficiles en nous mettant ça sur le dos, et c'est très bien, c'est aussi à ça que ça. Est-ce que vous avez d'autres questions?
Est-ce que ça vous arrive du coup de temps en temps de recevoir des entreprises qui sont quand même bien développées, mais qu'en fait elles vivent un tournant et du coup elles passent du territoire France par exemple au territoire international et du coup vous les aidez dans cette transition en fait pour qu'elles aient cette même dynamique, ce même impact?
On a toutes sortes de schémas. Et on a par exemple, je pense à une entreprise en particulier qui va avoir la question internationale bientôt, mais qui avait déjà la question du territoire français. Dans la croissance, est-ce que je fais par exemple plus de bénéficiaires au même endroit ou est-ce que je fais la même chose dans différents territoires? Donc, ces décisions-là, on y est confronté tout le temps, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça requiert comme compétence, qu'est-ce que ça requiert comme structure, sous quelle forme je le fais. Donc oui, on a tout le temps ces questions. En fait, les entreprises qui viennent sont tout le temps des entreprises en transition. Donc il y a tout le temps des questions stratégiques à se poser. Et nous, par exemple, sur les connaissances, on parlait de la connaissance du client. Aujourd'hui, on ne peut pas s'arrêter à la compréhension du besoin du client. Ça ne suffit pas pour faire une offre. Il faut aller plus loin que ça, ce qu'on appelle le job to leader du client. Mais ce schéma-là, on sait que pour changer le logiciel des entrepreneurs, il faut entre 3 et 9 mois. C'est un temps incompressible. Intellectuellement, on comprend très bien, mais tant qu'on n'a pas expérimenté ce que ça veut dire d'aller comprendre le job que lui donne du client, ça reste intellectuel. Donc on sait aussi que dans la structuration, il y a des temps qui sont incompressibles. Et c'est pour ça que c'est sur 2 ans. Oui.
Merci, j'ai trouvé ça passionnant. Il y a des choses d'ailleurs qui me perturbaient quand vous avez dit le principe de best practice, c'est une ouais. Mais après, quand même, monsieur a parlé de best practice, mais, oui. Mais en tout cas.
Je suis encore bien formée.
Non, mais je trouve que c'est intéressant parce que ça fait partie quand même des, des points clés. Quand on travaille notamment dans les grosses entreprises, le principe de la best practice, c'est systématique, c'est très copy-paste, il y a tout ce schéma-là. Et je comprends que vous êtes un accélérateur, donc sur une entreprise à impact, et l'objectif, c'est qu'elle croisse. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont beaucoup cru et qui n'ont pas d'impact, qui devraient en avoir plus. Est-ce que vous réfléchissez à des façons de créer de la perméabilité pour que justement ces entreprises qui ont beaucoup cru et qui doivent maintenant réfléchir plus à leur impact réussissent à faire cette migration, cette communauté?
Je vais répondre de deux façons à ça, parce qu'on a aussi un incubateur à HEC qui accompagne les unicornes et autres entreprises à forte croissance, pas forcément sans impact. Et notre croyance, c'est quand même, en tout cas dans la création d'entreprise aujourd'hui, c'est pas possible de créer une entreprise si on n'est pas d'impact dans l'ADN. Mais c'est pas un truc naturel. Donc ça, c'est pour les entreprises en création. Pour les entreprises qui existent déjà, on a une approche qui est qu'on appelle impact by design, qui est de dire, ok, l'impact, on peut être for impact, donc on va faire de l'impact. With impact, on fait avec de l'impact, et impact by design, on va essayer de faire les deux. Et donc on repart du business model de l'entreprise avec une grille un peu particulière, avec 10 cases précises, et on re-questionne tout ça, mais ça part quand même de la formation des gens. Et est-ce qu'on pense que les gens qui vont porter ce projet sont les bonnes personnes pour faire ça? Parce qu'il y a ça, c'est que c'est un peu comme la phase de start-up et puis de forte croissance. Souvent, les dirigeants des start-up ne sont pas les bons pour faire la croissance. Souvent, les gens qui ont fait beaucoup de croissance sans souci d'impact ne sont pas nécessairement les bons. On peut être réformé, hein. La réforme est possible, mais c'est quand même compliqué. Donc, encore une fois, ça part des gens, et puis après, on a des techniques pour travailler sur... pareil, pour questionner. On essaye, dans la mesure du possible, de ne pas apporter de réponse, mais d'apporter des questions un petit peu différentes. Bien sûr, absolument.
Ceci nous permet aussi de comprendre comment ces structures peuvent apporter aussi d'autres choses à des structures plus importantes en taille, mais aussi peut-être beaucoup moins en impact. Et dans ce sens, on a commencé à créer en fait des programmes, plutôt des dispositifs et des chartes qui doivent appliquer désormais. En fait, ça, voilà, le fait de pouvoir avoir un acteur public qui participe d'un point de vue financier, mais aussi en fait qui, en début d'année, tous les ans, lance on appelle la manifestation d'intérêt, donc quand un acteur pédagogique se positionne, et on a la chance que, voilà, d'avoir HEC qui se positionne tous les ans et qui a vraiment un programme toujours très qualitatif, ça nous permet en fait de travailler ensemble et de pouvoir comprendre, voilà, les choses que nous, en tant que acteurs publics, on voit pas sur le terrain. Et aussi ça nous permet de l'autre côté, en fait, de pouvoir imprégner aussi les agents publics de ces types voilà, d'informations et de ce côté systémique qu'on n'a pas forcément toujours dans toutes les couches territoriales des collectivités publiques. Voilà, donc c'est quelque chose aussi qui apporte beaucoup un acteur public.
Et je dirais, pour aller dans ce sens-là, parce que c'est ce qu'on expérimente avec la région, mais avec d'autres acteurs aussi, la question, c'est dans le programme de la CIPAM, on travaille beaucoup sur la discrimination. Et la discrimination, elle tombe dès que les gens s'aiment. En fait, c'est bête et méchant, mais comment les gens s'aiment, ils commencent à bosser ensemble. Et quand vous travaillez avec quelqu'un, il y a des choses qui se créent, un rapport qui se crée, et tout le reste disparaît. Le CES, c'est un peu pareil. C'est-à-dire, quand on commence à faire travailler ensemble différents acteurs, il y a de la diffusion, de la dissémination, presque non conscientisée, qui fait le terreau pour pouvoir après avoir des réflexions stratégiques sur comment je vais mettre ça en œuvre dans ma boîte. Et on a beaucoup de gens qui sont les entreprises dites normales qui sont, qui se posent des questions et qui ne savent pas comment prendre le sujet. Donc il y a aussi tout un travail à faire sur ok, ça vient d'où cette envie là de faire ça? Est-ce que c'est une demande des actionnaires? Est-ce que c'est une demande des clients? Si c'est que ça, ça va être compliqué. Donc il y a aussi toute une éducation à faire des gens et les mettre en réseau avec des gens qui ont déjà fait. Ben, ça, c'est sûr que ça aide. C'est fini. Merci beaucoup de votre attention.
Merci.